Parce que de fait, vous le disiez, il y a quand même un très grand laxisme des pouvoirs publics vis-à-vis des multinationales. Et en particulier, on pourrait peut-être parler des réglementations, des régulations qui existent, même si elles sont insuffisantes, il y en a. Mais vous dites que finalement, l'exception, c'est lorsque ces réglementations sont suivies des faits.
Oui, alors effectivement, c'est un constat, on l'a vérifié à propos de l'eau, mais c'est nous, dans notre travail, en tant qu'observatoire des multinationales, on finit par se demander si les multinationales respectent jamais vraiment les règles. Et je dis ça un peu pour plaisanter, et je dis ça pas forcément pour les accuser. Enfin, des fois, c'est impossible de respecter les règles, parce que c'est la manière dont les règles sont conçues. C'est-à-dire... De manière générale, quand les autorités publiques autorisent ou non, étudient un projet extractiviste de mine, un projet de nouvelle mine, par exemple, comme c'est le cas en France, ou un projet extractiviste, elles demandent ou elles font réaliser une étude d'impact environnemental. Et là, c'est là que ça commence à, le bât commence à blesser parce que, de manière générale, c'est les entreprises elles-mêmes qui doivent réaliser cette étude, qui la font. Ou qui la font réaliser par quelqu'un qu'elle paye, ce qui revient à peu près au même. Et donc l'autorité qui n'a pas les moyens de mener sa propre étude ou qui ne se donne pas les moyens de mener sa propre étude doit donner ou non son autorisation sur la base de cette étude faite par l'entreprise. Dans la plupart des cas, cette étude elle est extrêmement critiquable parce qu'elle ne tient pas compte. Enfin, elle a une conception très très restrictive des impacts potentiels d'un projet. Alors que comme on l'a vu, et en particulier en matière d'eau, les impacts ils peuvent se faire sentir à très long terme et bien en aval de l'endroit même où a lieu le forage ou la mine. Ensuite, l'autorité de régulation, les pouvoirs publics, ils peuvent dire « Ok, mais à certaines conditions, si vous mettez en place certaines mesures ». Parce qu'effectivement, ils ont vu qu'il y avait un risque pour les ressources en eau. Le problème avec ça, c'est que souvent, elles n'ont pas les moyens de vérifier si ces mesures sont effectivement mises en place. Ou alors, ces mesures ne sont pas respectées, mais bon, elles font rien. Ça arrive souvent. J'ai un exemple en tête qui concerne pas un projet extractiviste, mais c'est un barrage qu'il y a des projets extractivistes, où c'est le barrage de Belo Monte, donc en Amazonie brésilienne, dont beaucoup de gens pensent qu'il a été construit parce qu'il y avait des ressources minérales tout autour et que ça permettrait d'alimenter en électricité les mines. Et il y a déjà eu un projet de mine qui s'appelle Belo Son, un mine d'or. Et donc systématiquement, plusieurs fois, l'autorité fédérale brésilienne a donné un accord avec des conditions environnementales et sociales. Et systématiquement, l'entreprise responsable de Belo Monte ne les a pas respectées, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à construire son barrage sans problème. Et enfin, un autre problème qu'on a constaté, c'est que les entreprises, une fois qu'elles avaient leurs autorisations, elles étaient en position de force. C'est-à-dire que si elles ne respectaient pas les conditions qui leur sont imposées, comme je viens de dire, ou si elles veulent changer, elles décident « Oh, finalement, on va faire autrement. Finalement, on avait dit qu'on n'avait pas besoin d'eau, mais finalement, on va pomper plein d'eau là. » Le processus pour changer est très facile. Et il est à l'abri des regards publics. Et ça...
C'est-à-dire qu'on accepte une modification du projet initial par lequel une entreprise s'était engagée à respecter un certain nombre de clauses.
Voilà. En fait, je vais donner un exemple qui est au Canada. On a essayé d'étudier dans le cadre de nos enquêtes un projet qui est mené à bien par Shell avec le soutien de l'entreprise française Veolia, où il disait on va faire un site d'extraction de sable bitumineux mais qui soit super propre. Et on va recycler toute l'eau qu'on utilise, on va la recycler, la réutiliser, ce sera un cycle fermé, sans impact sur l'environnement. Donc on a essayé de se pencher un peu sur ce que recoupaient un peu ces promesses. Donc on n'a pas pu tout savoir parce qu'évidemment ils disent pas tout, ils sont prompts à faire de grandes annonces, mais bon, savoir ce que ça recoupait exactement, c'est toujours plus difficile. Bon, par ailleurs, ce projet a été abandonné en raison notamment de la chute des cours du pétrole, et ça devenait trop coûteux. Mais bon, à l'époque, il n'était pas abandonné. Et ce que nous expliquaient les gens qui suivent un peu cette question, c'est que souvent, les entreprises au Canada qui font des sables bitumineux, elles commencent en disant « Oui, on va utiliser très très peu d'eau quand elles demandent leur licence environnementale. » Donc elles ont leur licence environnementale sur cette base. Et puis, 6 mois plus tard, elles disent « Ah, finalement, on se rend compte que maintenant qu'on a commencé à opérer, on se rend compte que l'eau sur laquelle on comptait ou notre technique, elle n'est pas au point, donc on va utiliser de l'eau de cet aquifère. » Et le problème, c'est que contrairement à la première autorisation qui requiert tout un processus de consultation formelle, des délais, il y a un peu de traçabilité, de transparence, Là, le changement mineur, il y a plus de, il est à l'abri des regards du public. C'est l'autorité qui dit oui ou non. Et bon, évidemment, dans 99,9% des cas, elle dit oui. D'autant plus qu'une fois que l'entreprise a sa licence, elle se retrouve en position de force aussi du point de vue où elle peut se retourner contre le gouvernement. Par exemple, en utilisant un traité d'investissement ou un traité de commerce, en disant vous nous expropriez de notre propriété qui est cette licence minière et vous nous empêchez de l'exploiter, etc., etc.
Là encore, vous n'êtes pas en train de faire de la prospective un peu funèbre ou sinistre. Olivier Petitjean, vous parlez de cas qui sont déjà produits.
Oui, c'est une des autres choses qu'on a découvertes, ou redécouvertes, en faisant ce travail. C'est que, bon, on parle beaucoup, d'ailleurs on vient d'en parler de ce projet de traité transatlantique, et en particulier de ce qu'on appelle l'ISDS, qui est donc cette possibilité pour les entreprises, en tant qu'investisseurs étrangers, de se retourner contre un gouvernement qui mettra en place des politiques publiques ou des mesures sociales et environnementales nuisibles à son taux de profit, en gros, pour simplifier. Et ces ISDS donc, qu'on veut appliquer à l'Europe et aux États-Unis, ils existent déjà dans le cadre d'autres traités de commerce et d'investissement. On a parlé de l'ALENA, mais surtout dans les traités bilatéraux entre deux pays. Ils sont déjà mis à profit par les entreprises pour poursuivre des gouvernements. Et certains des cas les plus emblématiques, justement, de ces recours d'entreprises contre des gouvernements concernent justement la pollution de l'eau par des entreprises minières. Et donc il y a un cas dont on parle beaucoup, qui est le fait qu'une entreprise canadienne qui s'appelle Lone Pine Resources se soit retournée contre le Québec en utilisant une filiale aux États-Unis en raison de son moratoire de fait sur la fracturation hydraulique. Donc ça, c'est un exemple qu'on utilise beaucoup en France parce qu'effectivement, il y a cette menace en France aussi si un jour on signe le TAFTA.
Il faut préciser les choses, je pense, Olivier Petitjean. Ce qui s'est passé précisément dans ce cas-là, c'est qu'une entreprise a attaqué un État au motif qu'elle avait passé des lois pour protéger l'environnement et la population et que cette loi portait atteinte effectivement aux profits financiers qui pouvaient être escomptés de l'exploitation des gaz de schiste ou autres. Et en fait, ces fameux tribunaux qui vont arbitrer entre des sociétés et des États, ce sera toujours ce type d'arbitrage, c'est-à-dire est-ce que telle loi contrevient aux intérêts d'une entreprise ? Ça sera toujours dans ce cas-là. Ça ne sera jamais est-ce que telle entreprise contrevient aux intérêts d'un État.
Oui, c'est ça. C'est une conception de plus en plus large, disons, et de plus en plus de ce qu'on peut considérer comme une expropriation. Donc à la base, les traités d'investissement, ça visait à protéger une entreprise ou un investisseur qui s'est fait vraiment expulser sans aucune raison par un État de manière brutale. Mais ça a été interprété sous la pression des intérêts économiques de manière de plus en plus large. Et maintenant, quand une entreprise a une concession, disons, comme donc voilà, Lone Pine Resources au Québec avait une concession, elle dit je peux pas l'exploiter comme je veux, ce dont je parlais tout à l'heure. Quelle que soit la raison, même si c'est pour des raisons environnementales très louables, je peux pas l'exploiter comme je veux, ça veut dire qu'on me prive de ma propriété, de mon droit inaliénable à exploiter cette concession. Et donc je peux me retourner contre la province, en l'occurrence, ou un État, et lui réclamer tous les profits que j'aurais pu espérer si j'avais pu exploiter cette concession. Et pour donner un autre exemple, parce que, comme je le disais, c'est justement les exemples les plus emblématiques concernent l'eau, c'est un autre cas très important qui est un recours initié par une société canadienne qui s'appelle Pacific Rim contre le Salvador, le petit État du Salvador en Amérique centrale. Donc le Salvador, c'est un pays un peu comme, de manière encore pire que le Mexique, où il y a beaucoup de mines et qui est vraiment comme c'est un petit État, avec déjà fragile du point de vue hydrologique, qui est vraiment miné par la pollution de l'eau et la surexploitation de l'eau. Et donc, en conséquence de ça, le gouvernement salvadorien a mis en place un moratoire sur les nouvelles mines, jusqu'à qu'il y ait un processus d'encadrement qu'ils estiment suffisant pour permettre de nouvelles mines. Et il y a une entreprise qui avait une concession de mine d'or qui s'est dit « Bon, c'est un moratoire de fait, vous nous empêchez d'exploiter cette concession. » Donc de la même manière, on réclame plusieurs centaines de millions de dollars correspondant au profit qu'ils pouvaient espérer réaliser devant un tribunal arbitral. Donc un tribunal arbitral, c'est trois avocats ou juristes, souvent très proches du milieu d'affaires, qui se réunissent, en l'occurrence à Washington, dans le cadre de la Banque mondiale, ça peut être ailleurs, à La Haye, et qui décident de manière un peu, d'un point de vue strictement économique et sans tenir compte des questions sociales et environnementales.